Sur Herbert West, qui fut mon ami à l'université et dans la vie d'après, je ne puis parler sans une extrême terreur, pas tant à cause des circonstances sinistres de sa récente disparition que de la nature même des travaux auxquels il consacra sa vie. Ce sentiment prit pour la première fois une forme aiguë il y a plus de 17 ans, alors que nous étions en troisième année de médecine à l'université Miskatonic d'Arkham. Tant qu'il était à mes côtés, l'aspect incroyable de ses expériences diaboliques me fascinait au plus haut point. Maintenant qu'il n'est plus là, le charme est rompu et la peur nue l'emporte. La réalité est certes terrible, mais les souvenirs et les conjectures sont pires encore. Le premier incident horrible à s'être produit du temps de notre amitié fut le grand choc de ma vie. Et c'est à contre-cœur que je le raconte. Au cours de nos études, West avait déjà fait parler de lui à cause de ses folles théories sur la nature de la mort, qu'il affirmait pouvoir être vaincue par des moyens artificiels. Son point de vue, largement tourné en ridicule par la faculté et les autres étudiants, reposait sur la nature essentiellement mécanique de la vie. Pour lui, après l'arrêt des processus naturels, il était possible d'agir sur la machinerie organique de l'homme par des moyens chimiques calculés. En expérimentant différentes solutions d'animation, il avait tué et traité un nombre incroyable de lapins, de cobayes, de chats, de chiens et de singes, ce qui avait fait de lui le principal fléau de l'université. À plusieurs reprises, il était parvenu à obtenir des signes de vie souvent violents chez des animaux supposés morts. Mais il avait vite compris que la parfaite maîtrise du processus, à supposer qu'elle fût possible, allait nécessiter toute une vie de recherche. De plus, une méthode n'agissant jamais à l'identique suivant les espèces, il devint clair que, pour faire des progrès plus spécifiques, des sujets humains allaient être indispensables. C'est sur ce point qu'il entra pour la première fois en conflit avec les autorités de l'université. C'est le doyen de la faculté de médecine lui-même, le savant et bienveillant docteur Alan Halsey, dont le travail en faveur des pauvres reste gravé dans la mémoire de tous les vieux habitants d'Arkham, qui lui interdit de poursuivre ses expériences. Je m'étais toujours montré d'une tolérance exceptionnelle envers les aspirations de West, et nous discutions souvent de ces théories aux ramifications et corollaires presque infinies. Partant, comme Huckel, du principe que toute vie est un processus chimique et physique, et que la prétendue âme est un mythe, mon ami considérait que la réanimation artificielle d'un mort dépendait uniquement de l'état des tissus. Tant que la décomposition n'a pas commencé, un cadavre équipé de tous ses organes peut, en prenant les mesures qui s'imposent, réintégrer ce processus particulier que l'on appelle la vie. West comprenait bien que la détérioration, même légère, des cellules sensibles du cerveau, détérioration consécutive à une période de mort si brève fut-elle, risquait de dégrader la vie psychique ou intellectuelle du sujet. Il avait tout d'abord espéré trouver un réactif qui lui rendrait sa vitalité avant que le trépas survienne, et il avait fallu des échecs répétés sur des animaux pour lui démontrer que le mouvement de la vie naturelle et celui de la vie artificielle étaient incompatibles. Il travailla donc sur des spécimens d'une extrême fraîcheur, en prenant soin d'injecter ces solutions immédiatement après la mort. C'est précisément ce qui éveilla le scepticisme peu éclairé des professeurs, car ils pensaient qu'il n'y avait pas eu mort véritable des sujets. Ils ne prirent jamais le temps d'examiner la question de manière rationnelle. C'est peu de temps après l'interdiction de ces travaux que West me confia vouloir, d'une manière ou d'une autre, se procurer des cadavres frais et poursuivre en secret les expériences qu'il ne pouvait plus faire au vu et au su de tous. Il était assez effrayant de l'écouter m'expliquer les méthodes préconisées, car à l'université, nous ne nous étions jamais procuré de spécimens anatomiques par nos propres moyens. Chaque fois que la morgue était dans l'incapacité de fournir, deux noirs du voisinage se chargeaient de dégoter le nécessaire. On ne leur posait quasiment jamais de questions. À l'époque, West était un jeune gringalet lunetteux, aux traits fins. Il avait les cheveux blonds, les yeux bleu clair et la voix douce. Aussi trouvais-je étrange de l'entendre s'apesantir sur les mérites relatifs du cimetière de Christchurch et de la fosse commune. Presque tous les cadavres enterrés à Christchurch étaient embaumés, ce qui ne convenait évidemment pas pour les recherches de West. Je l'assistais déjà avec assiduité et fascination, et l'aidais dans toutes ses décisions, non seulement concernant l'approvisionnement en corps, mais aussi à propos de l'endroit qui conviendrait à notre sinistre besogne. C'est moi qui eus l'idée d'investir la ferme abandonnée des Chapman, derrière Meadow Hill, au rez-de-chaussée de laquelle nous installâmes une salle d'opération et un laboratoire pourvu de rideaux sombres pour cacher nos activités nocturnes. Aucune route ne passait à proximité du bâtiment, et il n'y avait pas d'autre maison en vue. Et cependant, il nous fallait rester prudents, car si des promeneurs solitaires venaient à répandre la rumeur que l'on voyait de drôles de lumières à la ferme, ce serait un désastre pour nous. Nous étions convenus, au cas où nous serions découverts, de dire que nous avions installé un laboratoire de chimie. Progressivement, nous équipâmes notre sinistre tanière scientifique de matériel acheté à Boston ou discrètement emprunté à l'université, non sans veiller à le rendre méconnaissable, du moins aux yeux du profane. Nous nous procurâmes aussi des pelles et des pioches pour les nombreuses inhumations auxquelles nous allions devoir procéder à la cave. À l'université, nous avions recours à un incinérateur, mais un tel appareil aurait coûté trop cher pour en équiper un laboratoire clandestin. Les cadavres étaient un problème constant, même lorsqu'il s'agissait des petits corps de cobayes que West utilisait pour ses petites expériences secrètes dans la chambre qu'il occupait à la pension. Nous suivions les avis de décès locaux comme des vampires, car nos spécimens devaient posséder des qualités bien précises. Nous voulions des corps enterrés peu de temps après leur trépas et n'ayant subi aucun traitement de conservation. De préférence, ils ne devaient pas être atteints de malformations et, à coup sûr, il fallait qu'ils disposent de tous leurs organes. Notre meilleur espoir résidait dans les victimes d'accidents. Nous eûmes beau nous entretenir, prétendument au nom de l'université, avec les responsables des morgues et des hôpitaux, et cela aussi souvent qu'il était possible de le faire sans éveiller les soupçons, il se passa bien des semaines sans que nous entendions parler d'un sujet convenable. Comme la faculté était systématiquement prioritaire, nous allions peut-être devoir passer les grandes vacances à Arkham. À cette période ne se tenait plus qu'une poignée de cours d'été. Néanmoins, la chance finit par nous sourire. Un jour, nous eûmes vent de l'enterrement d'un corps presque idéal à la fosse commune. Un jeune ouvrier robuste s'était noyé le matin précédent dans l'étang Summer et avait été inhumé aux frais de la ville, sans délai ni embaumement. Cet après-midi-là, nous allâmes voir la tombe fraîche et décidâmes de nous mettre au travail juste après minuit. C'est à une tâche bien répugnante que nous nous attelâmes aux petites heures noires, même si, à ce moment, nous n'éprouvions pas encore pour les cimetières l'horreur particulière que les événements allaient finir par provoquer en nous. Nous prîmes des pelles et des lanternes à huile, car si l'on fabriquait déjà des torches électriques, elles n'étaient pas aussi efficaces que les lampes à tungstène d'aujourd'hui. Si nous avions été artistes et non scientifiques, nous aurions pu voir de la poésie dans l'horrible tâche. Mais l'exhumation fut lente et sordide, et nous fûmes contents lorsque nos pets heurtèrent du bois. Une fois le cercueil de pain complètement découvert, West descendit, retira le couvercle, puis traîna le corps hors de sa boîte avant de le soulever. Je me baissai pour hisser le cadavre, puis nous fîmes de notre mieux pour remettre le lieu dans l'état où nous l'avions trouvé. Tout cela nous rendit assez nerveux, en particulier la silhouette raide et le visage vide de notre premier trophée. Toutefois, nous parvîmes à effacer toute trace de notre visite. Dès que la dernière pelletée de terre fut aplanie, nous mîmes le spécimen dans un sac de toile et partîmes pour la vieille ferme Chapman, derrière Meadow Hill. Sur une table de dissection improvisée, à la lumière d'une puissante lampe à acétylène, le spécimen n'avait rien d'un fantôme. C'avait été un jeune homme vigoureux, apparemment sans imagination, un plébéien sain, large d'épaules, aux yeux gris et aux cheveux bruns, un animal en bonne santé mais dénué de subtilité psychologique, ayant possédé la plus simple et la plus saine des physiologies. Désormais, avec ses yeux fermés, il semblait plus endormi que mort, même si mon ami le soumit à un test savant qui ne laissa aucun doute sur son état. Nous avions enfin ce que West avait toujours désiré, un vrai mort de l'espèce idéale, prêt à se faire administrer la solution préparée selon les calculs et théories les plus précis pour un usage sur un humain. Nous étions très tendus. Nous savions qu'il n'y avait quasiment aucune chance que nous rencontrions un succès total, et ne pouvions nous empêcher de redouter les résultats, forcément aberrants, d'une réanimation partielle. Nous étions particulièrement inquiets de l'état de l'intellect et des pulsions de la créature, car dans le laps de temps qui s'était écoulé depuis sa mort, certaines cellules cérébrales extrêmement délicates avaient pu se détériorer. Personnellement, j'avais encore en moi de curieuses conceptions inspirées de la tradition sur l'âme, et j'étais empli de stupeur en pensant aux secrets que pourrait révéler un sujet revenu d'entre les morts. Je me demandais ce qu'avait pu contempler ce placide jeune homme dans les sphères inaccessibles, et ce qu'il allait parvenir à nous en dire une fois revenu à la vie. Cependant, je ne me laissais pas submerger par ces questions, car dans l'ensemble, je partageais le matérialisme de mon ami. Il était plus calme que moi lorsqu'il injecta une grande quantité de son fluide dans une veine du bras du cadavre, et s'empressa de ligaturer fermement l'incision. L'attente fut terrible, mais West ne flancha à aucun moment. De temps à autre, il appliquait son stéthoscope sur le spécimen. Chaque fois, il accueillait les résultats négatifs avec philosophie. Après environ trois quarts d'heure sans le moindre signe de vie, il déclara, non sans déception, la solution inadéquate. Mais souhaitant profiter au maximum de cette occasion, il décida de tenter un changement dans sa formule avant de se débarrasser de sa sinistre prise. Dans l'après-midi, nous avions creusé une tombe à la cave et il nous faudrait la remplir avant l'aube. Malgré la serrure que nous avions installée à l'entrée de la maison, nous préférions éviter tout risque d'être pris sur le fait. Par ailleurs, le corps ne serait plus assez frais la nuit suivante. Emportant donc notre unique lampe à acétylène dans le laboratoire adjacent, nous laissâmes notre invité silencieux sur sa table dans le noir et employâmes toute notre énergie à confectionner une nouvelle solution. West supervisa le pesage et les mesures avec une attention presque fanatique. L'horrible événement survint de manière soudaine et totalement inattendue. Je versai le contenu d'un tube à essai dans un autre, et West s'affairait sur la lampe à alcool qui faisait office de bec benzène dans cette maison dépourvue de gaz, lorsque, dans la pièce noire d'encre que nous avions quittée, retentirent les cris les plus effrayants, les plus démoniaques que nous ayons jamais entendus. Le brouhaha n'aurait pas été plus indescriptible si la fosse de l'enfer s'était ouverte pour laisser échapper la souffrance des damnés. car cette inconcevable cacophonie concentrait toute la terreur de l'au-delà, tout le désespoir surnaturel de la nature animée. Ces cris ne pouvaient être humains. L'homme n'a pas de tels sons en lui. Aussi, sans plus penser à notre tâche ou au risque d'être percé à jour, West et moi bondîmes vers la fenêtre la plus proche, comme des bêtes paniquées, renversant les tubes, la lampe et les cornues sur notre passage. Nous plongeâmes comme des fous dans les ténèbres étoilées de la nuit rurale. Je crois que nous hurlions nous aussi en courant tant bien que mal vers la ville. Mais en atteignant les faubourgs, nous nous contîmes juste assez pour avoir l'air de fêtards rentrant aussi tardivement que péniblement d'une nuit de beuverie. Nous ne nous séparâmes pas, mais réussîmes à gagner la chambre de West, où nous chuchotâmes toutes lumières allumées jusqu'à l'aube. À ce moment, nous nous étions quelque peu calmés à coups de théories rationnelles et de plans de recherche, ce qui nous permit de dormir toute la journée suivante sans nous préoccuper des cours. Mais le soir venu, deux articles sans rapport dans le journal rendirent à nouveau tout sommeil impossible. Un incendie inexplicable avait réduit la vieille maison abandonnée des Chapman en cendres. Cela nous parut logique, étant donné que nous avions renversé une lampe. L'autre nouvelle concernait la fosse commune. Quelqu'un avait vainement essayé d'ouvrir une tombe récente en labourant la terre avec les ongles, sans l'aide d'une pelle. Cette fois, nous ne comprenions pas, car nous avions pris grand soin d'aplanir le tumulus. Au cours des 17 années qui suivirent, West regarda souvent par-dessus son épaule, en affirmant avoir entendu des pas derrière lui. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Jamais je n'oublierai cet été horrible d'il y a 16 ans, où, tel un néphrite néfaste sorti des fosses d'Iblis, la typhoïde rôdait, prédatrice, dans les rues d'Arkham. C'est à cause de ce fléau satanique que la plupart des gens se rappellent cette année, car la terreur, avec ses ailes de chauve-souris, planait réellement sur les cercueils empilés dans les tombes du cimetière de Christchurch. Et pourtant, en ce qui me concerne, cette époque est synonyme d'une horreur plus grande encore, une horreur dont moi seul connais la nature, maintenant qu'Herbert West a disparu. West et moi suivions des cours d'été à la faculté de médecine de l'université Miskatonic pour notre cursus de 3e cycle, et mon ami avait acquis une célébrité certaine à cause de ses expériences visant à faire revivre les morts. Suite au massacre scientifique d'innombrables petits animaux, ces sinistres travaux avaient officiellement cessé sur ordre de notre doyen sceptique, le docteur Alan Halsey. Mais West avait poursuivi certaines expériences dans le secret de sa minable chambre de pension et, par une nuit aussi terrible qu'inoubliable, avait arraché un corps humain à sa tombe de la fosse commune pour l'emporter dans une ferme abandonnée derrière Meadow Hill. Je vécus cette odieuse expérience à ses côtés, et je le vis donc injecter dans les veines inertes l'élixir dont il pensait qu'il devait, dans une certaine mesure, redémarrer les processus chimiques et physiques de la vie. Cela s'était terminé d'horrible manière, dans un effroyable délire que nous en vîmes à attribuer à nos nerfs surmenés. Et par la suite, West ne put jamais se débarrasser de la sensation exaspérante qu'il était suivi, voire pourchassé. Le corps n'était pas assez frais. Or, il est évident que, pour retrouver des attributs mentaux normaux, un sujet doit être particulièrement frais. L'incendie de la vieille maison nous avait empêchés d'enterrer le cadavre. Nous aurions pourtant préféré le savoir sous terre. Après cette expérience, West avait mis ses travaux entre parenthèses pendant quelque temps. Mais lorsque, petit à petit, il fut de nouveau gagné par le zèle du scientifique né, il recommença à harceler la faculté en exigeant qu'on lui prête la salle de dissection et des cadavres humains frais pour ses travaux, qu'il estimait de la plus haute importance. Cependant, ses suppliques restèrent vaines, car le docteur Halsey était inflexible et les autres professeurs approuvaient tous la décision de leur chef. Dans la théorie radicale de la réanimation, il ne voyait que les divagations immatures d'un jeune exalté, dont la frêle silhouette, les cheveux blonds, les yeux bleus et les lunettes ne laissaient pas soupçonner la froide puissance mentale, anormale et presque diabolique. Je le revois encore tel qu'il était alors, et cela me fait frissonner. Si son visage s'est fait plus sévère, jamais il n'a vieilli. Et maintenant, suite à l'incident de Sefton, West a disparu. West eut une vive altercation avec le docteur Halsey vers la fin de notre dernier semestre, et du point de vue de la politesse, le verbeux échange est davantage à mettre au crédit du doyen bienveillant qu'au sien. Il estimait qu'on le retardait aussi inutilement qu'irrationnellement dans un travail de la plus haute importance, un travail qu'il pourrait évidemment mener à bien au cours des années suivantes, mais qu'il souhaitait commencer tant qu'il bénéficiait des exceptionnelles ressources de la faculté. Que les vieux scientifiques prisonniers des traditions ignorent les étonnants résultats qu'il avait obtenus sur des animaux et persistent à nier la possibilité de la réanimation le dégoûtait au plus haut point. Leur réaction était incompréhensible pour un jeune homme doté de son tempérament logique. Il lui fallut gagner en maturité pour comprendre les limites mentales caractéristiques des docteurs-professeurs, produits pathétiques de générations de puritanisme, bienveillants, consciencieux, parfois doux et aimables, mais invariablement étroits d'esprit, intolérants, perclus de coutumes et dénués de sens de la perspective. L'âge est bon envers ces personnages inaboutis et heureux de l'être, dont le pire vice est leur manque de courage, et qui sont la risée de tous en guise de punition pour leurs péchés intellectuels. Des péchés comme le système ptolémaïque, le calvinisme, l'antidarwinisme, l'antinichéisme, toutes les formes de sabbatisme et de lois somptuaires. West, qui était jeune malgré ses merveilleuses connaissances scientifiques, n'était pas très patient avec le bon docteur Halsey et ses collègues érudits. Il nourrissait envers eux un ressentiment croissant, en même temps que le désir de prouver ses théories de façon éclatante et spectaculaire à ses vénérables obtus. Comme la plupart des jeunes, il se laissait aller à des rêves complexes de vengeance, de triomphe, et finalement de pardon magnanime. C'est alors que le fléau mortel et grimaçant surgit des entrailles cauchemardesques du Tartare. West et moi avions obtenu nos diplômes à peu près au même moment, mais étions restés au cours d'été pour continuer le travail, si bien que nous étions à Arkham lorsque sa fureur démoniaque se déchaîna pleinement sur la ville. Bien que nous n'eussions pas encore le droit d'exercer, nous étions désormais diplômés, et c'est avec la dernière énergie que l'on nous pressa de nous mettre au service de la communauté, car le nombre de malades augmentait. La ville était pour ainsi dire dépassée, et il y avait trop de morts pour que les entrepreneurs des pompes funèbres puissent en venir à bout. Les enterrements sans embaumement se succédèrent rapidement, et même le caveau temporaire du cimetière de Christchurch était bondé de cercueils contenant des corps non préparés. Cela ne fut pas sans effet sur West, qui pensa souvent à l'ironie de la situation, tous ses spécimens frais, et pas un seul pour ses recherches au nid. Nous croulions sous le travail, et l'insoutenable tension mentale et nerveuse rendait mon ami terriblement songeur. Mais les adversaires de West n'étaient pas moins submergés que nous. L'université était pratiquement fermée, et tous les docteurs de la faculté de médecine participaient au combat contre la fièvre typhoïde. Le docteur Halsey, en particulier, s'était distingué par son sens du sacrifice, en consacrant son extrême habileté de praticien et toute son énergie à des cas que beaucoup de ses confrères refusaient à cause du danger ou de l'inutilité apparente des soins. Avant un mois, le courageux doyen s'était élevé au rang de héros du peuple, quoiqu'il semblât inconscient de sa renommée, concentré qu'il était pour ne pas s'effondrer sous l'effet de la fatigue physique et nerveuse. West ne pouvait s'empêcher d'admirer la force d'âme de l'adversaire, mais il n'en était que plus décidé à lui prouver la véracité de ses étonnantes doctrines. Une nuit, profitant de la désorganisation de l'université et des règlements sanitaires de la ville, il parvint à faire entrer clandestinement dans la salle de dissection de la faculté un corps fraîchement trépassé. En ma présence, il lui injecta une version modifiée de la solution. La chose ouvrit indéniablement les yeux, mais se contenta de fixer le plafond avec un air d'horreur à vous figer l'âme, avant de retomber dans une inertie d'où rien ne put la sortir. West affirma que le corps n'était pas assez frais. L'air chaud de l'été n'est pas bon pour la conservation des cadavres. Nous faillîmes nous faire prendre avant d'avoir incinéré le sujet, si bien que West trouva qu'il serait peu avisé de donner suite à cette audacieuse utilisation du laboratoire de l'université. L'épidémie atteignit son point culminant en août. West et moi étions aux portes de la mort. Le docteur Halsey, quant à lui, décéda réellement le 14. Les étudiants assistèrent tous à ses funérailles organisées à la hâte le 15. La couronne qu'ils lui achetèrent, quoique impressionnante, fut éclipsée par les hommages des riches citoyens d'Arkham et de la municipalité elle-même. L'affaire fut, pour ainsi dire, publique, le doyen ayant été, à n'en point douter, un bienfaiteur de la ville. Après l'inhumation, nous étions tous assez déprimés. Nous passâmes donc l'après-midi au bar de la Commercial House, où West, bien qu'ébranlé par la mort de son principal opposant, nous glaça les sangs en nous reparlant de ses fameuses théories. À mesure que la soirée approchait, la plupart des étudiants rentrèrent chez eux ou partirent vaquer à leurs occupations. Mais West me persuada de l'aider à profiter de la nuit. Sa logeuse nous vit arriver vers 2 heures du matin avec un troisième homme entre nous. Elle dit à son mari qu'à l'évidence, nous avions bien mangé et bien bu. Apparemment, la cariâtre matrone avait raison, car aux alentours de 3 heures, la maison tout entière fut réveillée par des cris en provenance de la chambre de West, et en défonçant la porte, les gens nous découvrirent tous les deux étendus sur le tapis taché de sang, inconscients, battus, griffés et meurtris, parmi les débris des éprouvettes et instruments de West. Seule une fenêtre ouverte permettait de deviner ce qu'il était advenu de notre agresseur, et beaucoup se demandèrent dans quel état on le retrouverait après l'impressionnant saut d'un étage qu'il avait dû faire sur le gazon. Il y avait d'étranges vêtements dans la pièce. Cependant, West, lorsqu'il reprit conscience, affirma qu'il n'appartenait pas à l'étranger, mais qu'il s'agissait de spécimens rassemblés pour faire des analyses bactériologiques dans le cadre de recherches sur la transmission des maladies à germes. Il donna l'ordre de les brûler dès que possible dans la grande cheminée. À la police, nous déclarâmes tous deux ignorer l'identité de notre compagnon nocturne. West expliqua nerveusement qu'il s'agissait d'un sympathique inconnu rencontré dans quelque bar du centre-ville. Nous nous étions bien amusés, et ni West ni moi ne désirions que l'on pourchasse notre pugnace compagnon. Cette même nuit vit le début de la seconde plaie qui frappa Arkham et qui, à mon avis, éclipsa la première. Le cimetière de Christchurch fut le théâtre d'un meurtre horrible. Un veilleur de nuit avait été griffé à mort d'une manière qui non seulement était trop atroce pour être décrite, mais jetait de plus un doute sur le fait que l'acte ait pu être perpétré par un humain. On avait vu la victime en vie bien après minuit, et c'est seulement à l'aube que l'on découvrit l'effroyable crime. Le directeur d'un cirque installé dans la ville voisine de Bolton fut interrogé, mais jura qu'aucune de ces bêtes ne s'était échappée de sa cage. Ceux qui trouvèrent le corps remarquèrent une traînée de sang menant au caveau temporaire, où une petite flaque rouge stagnait sur le béton, juste devant le portail. La piste se poursuivait, plus ténue, en direction des bois, mais elle ne tarda pas à disparaître. La nuit suivante, des diables dansaient sur les toits d'Arkham, et le vent poussait des hurlements, empreints d'une démence surnaturelle. Dans la ville enfiévrée s'était glissée une malédiction dont certains disaient qu'elle était pire que l'épidémie, et à propos de laquelle il se murmurait qu'il s'agissait de la personnification de l'âme démonique du fléau. Une chose innommable pénétra dans 8 maisons et sema une mort écarlate dans son sillage. En tout, le monstre silencieux et sadique laissa derrière lui 17 corps mutilés et informes. Quelques personnes qui l'avaient entreaperçu dans l'obscurité racontaient que la créature anthropomorphe était blanche et ressemblait à un singe difforme. Elle n'avait pas laissé intacts tous ceux qu'elle avait attaqués, car elle avait eu faim. Elle avait fait 14 morts. 3 victimes se trouvaient dans des maisons frappées par la maladie et étaient déjà décédées à son arrivée. La 3e nuit, des équipes de recherche menées par la police échaudée capturèrent le monstre dans une maison de Crane Street, près du campus de l'université Miskatonic. La battue avait été soigneusement organisée, les volontaires restant en contact téléphonique. Et quand quelqu'un dans le quartier de l'université avait affirmé avoir entendu gratter derrière des volets fermés, la nasse se referma vite. Grâce à l'alerte générale et aux précautions qui furent prises, on ne déplora que 2 nouvelles victimes, et la capture se fit sans gros dégâts. En fin de compte, c'était une balle, non mortelle, qui arrêta la créature. On se dépêcha de la transporter à l'hôpital local dans l'excitation et le dégoût généraux. Car il s'agissait d'un homme. C'était incontestable, malgré son regard écœurant, ses caractères et son mutisme simiesque, et sa sauvagerie démoniaque. On pansa sa blessure, puis on l'envoya à l'asile psychiatrique de Sefton, où l'individu passa 16 ans à se cogner la tête sur les murs capitonnés d'une cellule. Jusqu'au récent incident qui le vit s'évader dans des circonstances que la plupart des gens préfèrent taire. Pour les enquêteurs d'Arkham, le plus répugnant fut de découvrir, en nettoyant le visage du monstre, qu'il ressemblait à une caricature étonnamment ressemblante du martyr que la ville avait enterré 3 jours à peine auparavant. Feu le docteur Alan Halsey, bienfaiteur public et doyen de la faculté de médecine de l'université Miskatonic. Le dégoût et l'horreur atteignirent leur comble chez Herbert West, aujourd'hui disparu, et chez moi. Ce soir, je frissonne en y repensant. Je frissonne plus encore que ce matin-là, quand West grommela entre ses pansements. Bon sang, il n'était pas tout à fait assez frais. Il est inhabituel de tirer les 6 balles d'un revolver, alors qu'un seul coup de feu suffirait sans doute, mais bien des aspects de la vie d'Herbert West présentaient un caractère inhabituel. Par exemple, Il est rare qu'un jeune médecin quittant l'université soit obligé de dissimuler les principes qui le guident dans le choix d'un foyer et d'un cabinet. Et pourtant, ce fut le cas pour Herbert West. Lorsque nous obtînmes nos diplômes de la faculté de médecine et cherchâmes à soulager notre pauvreté en nous installant comme généralistes, nous évitâmes soigneusement de révéler que nous avions choisi notre maison à cause de son relatif isolement et parce qu'elle était aussi proche que possible de la fosse commune. Bien évidemment, nos réticences n'étaient pas infondées, car notre choix était lié aux recherches auxquelles nous consacrions notre vie et qui étaient particulièrement impopulaires. Extérieurement, nous étions de simples médecins, mais sous la surface se cachaient des objectifs bien plus ambitieux et terribles. Car au cœur de l'existence d'Herbert West se trouvait une quête dans les royaumes noirs et interdits de l'inconnu, quête qui, du moins l'espérait-il, lui permettrait de découvrir le secret de la vie et de rendre l'animation perpétuelle à l'argile froide des cimetières. Pareille quête exige des matériaux particuliers, notamment des cadavres frais. Et qui ne veut pas être à court de ce genre de matériaux se doit de vivre discrètement et à proximité d'une fosse commune. J'avais rencontré West à l'université et avais été le seul à montrer de l'intérêt pour ses répugnantes expériences. J'en étais peu à peu venu à être son inséparable assistant, et maintenant que nous étions sortis de l'université, il nous fallait rester ensemble. S'il était difficile de trouver des débouchés pour deux médecins associés, l'université joua de son influence pour nous obtenir un cabinet à Bolton, ville industrielle voisine d'Arkham. Les filatures de laine peignées de Bolton sont les plus importantes de la vallée du Miskatonic, et leurs employés polyglottes ne sont pas les patients que préfèrent les médecins des environs. Nous choisîmes notre maison avec grand soin, et nous décidâmes enfin pour un cottage assez délabré, presque au bout de Pond Street, à bonne distance du premier voisin, et séparé de la fosse commune locale par une simple prairie, elle-même traversée par une étroite résurgence de la forêt assez dense qui s'étend au nord. Nous aurions préféré que la distance fût moins grande, mais impossible de se procurer de maisons plus proches sans aller de l'autre côté de la fosse commune, ce qui nous aurait éloigné du quartier industriel. Cependant, nous n'avions pas trop à nous plaindre, car personne n'habitait entre nous et notre sinistre source d'approvisionnement. Il fallait certes marcher un peu, mais nous pourrions traîner nos spécimens muets sans être dérangés. Notre clientèle fut étonnamment nombreuse dès le début, assez pour contenter la plupart des jeunes médecins, mais aussi pour constituer un pénible fardeau pour des étudiants dont le véritable intérêt résidait ailleurs. Les ouvriers de la filature étaient plutôt turbulents, et en plus de leurs nombreux besoins naturels, leurs fréquentes échauffourées, qui se terminaient parfois à coups de couteau, nous donnaient beaucoup de travail. Cependant, ce qui nous absorbait vraiment, c'était le laboratoire secret que nous avions installé à la cave, ce laboratoire à la longue table éclairée par des lampes électriques, où, aux petites heures du matin, nous injections souvent les différentes solutions de West dans les veines des sujets que nous rapportions de la fosse commune. West expérimentait avec passion pour trouver quelque chose qui puisse remettre en marche les mécanismes vitaux d'un homme après qu'ils eurent été arrêtés par ce que nous appelons la mort. Malheureusement, il avait rencontré les pires obstacles. La composition de la solution devait changer à chaque type de spécimen. Ce qui fonctionnait pour les cochons d'Inde ne pouvait marcher pour les êtres humains, et les différents spécimens exigeaient d'importantes modifications. Les cadavres devaient être extrêmement frais, ou le début de nécrose des tissus cérébraux rendrait la réanimation imparfaite. Et d'ailleurs, le principal problème était de se procurer des corps assez frais. West avait eu des expériences horribles au cours de ses recherches secrètes à l'université, alors qu'il travaillait sur des sujets de fraîcheur douteuse. Les résultats d'une réanimation partielle ou imparfaite étaient bien plus terribles que les échecs complets. Nous avions tous deux des souvenirs effroyables de tels cas. Depuis notre première séance démoniaque dans la ferme abandonnée derrière Meadow Hill, à Arkham, nous sentions une menace peser sur nos épaules. D'ailleurs, West, qui pouvait la plupart du temps être décrit comme un flegmatique automate scientifique aux cheveux blonds et aux yeux bleus, avouait souvent en tremblant se sentir suivi. Une illusion psychologique de ses nerfs éprouvés, illusion renforcée par le fait indéniable et dérangeant qu'au moins un de nos spécimens réanimés était encore en vie. Un terrifiant carnivore enfermé à Sefton dans une cellule capitonnée. Par ailleurs, un autre sujet avait survécu, le premier dont nous n'avions jamais connu le sort exact. Nous eûmes plus de chance avec les spécimens de Bolton, bien plus qu'à Arkham. Nous n'étions pas installés depuis une semaine que nous eûmes droit à une victime d'accident, obtenue la nuit même de son enterrement. Elle ouvrit des yeux à l'expression étonnamment rationnelle, avant que la solution cesse de faire effet. La victime avait perdu un bras. Si elle avait été en parfait état, peut-être aurions-nous eu plus de succès. Entre ce moment et le mois de janvier suivant, nous nous procurâmes trois autres corps. L'un fut un échec total, l'autre présenta des mouvements musculaires marqués, le dernier eut une réaction assez effrayante. Le corps se leva de lui-même et émit un son. S'ensuivit une période où nous jouâmes de déveine, les enterrements se raréfièrent et le peu de cadavres inhumés étaient soit trop malades, soit trop mutilés pour nos besoins. Nous continuâmes néanmoins de nous tenir méthodiquement au courant de tous les décès et de leurs circonstances. Une nuit de mars, cependant, nous obtînmes sans nous y attendre un spécimen qui ne venait pas de la fosse commune. À Bolton, l'esprit éminemment puritain avait fait que les combats de boxe étaient interdits, ce qui avait eu l'effet habituel. Les rencontres clandestines et mal encadrées entre ouvriers de la filature étaient monnaie courante, et il arrivait même que des professionnels à la petite semaine soient invités. En cette nuit de fin d'hiver s'était tenu un match de ce genre, qui s'était logiquement soldé par un résultat désastreux. Deux Polonais timorés étaient venus nous voir en murmurant des suppliques incohérentes. Nous devions nous occuper en secret d'un patient qui se trouvait dans un état désespéré. Nous les suivîmes jusqu'à une grange abandonnée où les vestiges effrayés d'une foule d'étrangers regardaient une silhouette noire qui gisait en silence sur le sol. Le match avait opposé Kid O'Brien, un balourd pris de tremblements suite à la tournure des événements et dont le nez crochu n'avait rien d'irlandais, et Buck Robin, dit la fumée de Harlem. Le noir avait fini KO, et un rapide examen nous permit de conclure qu'il le resterait jusqu'à la fin de ses jours. C'était une créature détestable, aux faux airs de gorille, avec des bras si longs que je ne pus m'empêcher de les appeler des patavants, et un visage qui évoquait les innommables secrets du Congo et le battement du tam-tam sous une lune mystérieuse. Son corps avait sans doute paru plus laid encore de son vivant, mais le monde recèle tant de laideur. La foule pitoyable était apeurée, car elle ignorait le sort que la justice lui réserverait si l'on n'étouffait pas l'affaire. Les gens furent donc reconnaissants à West lorsque, en dépit de mes frissons involontaires, il proposa de se débarrasser discrètement de la chose, pour une raison que je ne connaissais que trop bien. La lune éclairait un paysage sans neige. Cependant, nous habillâmes le sujet et l'emportâmes entre nous à travers les rues et prés déserts, tout comme nous avions transporté un autre corps par une horrible nuit à Arkham. Nous arrivâmes chez nous par le champ de derrière, entrâmes par la porte arrière, descendîmes le spécimen à la cave et le préparâmes pour l'expérience habituelle. Bien que nous eussions calculé nos déplacements de manière à éviter le seul agent qui patrouillait dans le secteur, nous ressentions une peur déraisonnée à l'idée que la police nous surprenne. Le résultat fut tout sauf impressionnant. Notre prise, si épouvantable fut-elle, ne présenta pas la moindre réaction à toutes les solutions que nous injectâmes dans son bras noir. Des solutions que nous avions jusque-là toujours injectées à des sujets de race blanche. Aussi, l'aube approchant dangereusement, nous fîmes ce que nous avions fait avec ses prédécesseurs. Nous traînâmes le corps à travers champs jusqu'au bras de forêt, près de la fosse commune. Là, nous fîmes de notre mieux pour l'enterrer malgré le sol gelé. La tombe n'était pas très profonde, mais pas moins convenable que celle du sujet précédent, celui qui s'était levé et avait gémi. À la lumière de nos lanternes sourdes, nous le recouvrîmes soigneusement de feuilles et de vignes mortes. Nous étions à peu près sûrs que la police ne le trouverait jamais dans une forêt si sombre et dense. Le lendemain, ma peur des autorités s'accentua, un patient nous ayant fait part de rumeurs concernant un combat secret qui s'était soldé par la mort d'un homme. West avait un autre motif d'inquiétude, car on l'avait appelé dans l'après-midi pour un cas qui s'était terminé de façon très alarmante. Une Italienne avait sombré dans l'hystérie suite à la disparition de son enfant, un garçon de 5 ans qui s'était éloigné le matin et n'était pas rentré dîner. La mère présentait des symptômes hautement inquiétants dans la mesure où elle avait toujours eu le cœur fragile. Comme ce n'était pas la première fois que le gamin disparaissait, la crise de cette femme était totalement injustifiée. Mais les paysans italiens sont excessivement superstitieux, et la patiente semblait aussi effrayée par des présages que par des faits. Elle était morte vers 7 heures du soir. Son mari, pris de folie, avait fait une scène effroyable de violence, allant même jusqu'à essayer de tuer West, à qui il reprochait de ne pas avoir sauvé son épouse. Des amis l'avaient retenu lorsqu'il avait sorti un poignard, pendant que West filait au son de ses cris inhumains, de ses jurons et de ses promesses de vengeance. Dans son chagrin, l'homme paraissait avoir oublié son fils, que l'on n'avait toujours pas retrouvé alors que la nuit tombait. On envisagea de fouiller les bois, mais la plupart des amis de la famille devaient s'occuper de la morte et de calmer son mari. Dans l'ensemble, la tension nerveuse avait dû être terrible pour West. La crainte de la police et de l'Italien fou pesait lourdement sur nos épaules. Nous nous couchâmes vers 11 heures, mais je ne dormis pas bien. Les forces de l'ordre étaient étonnamment nombreuses pour une ville aussi petite que Bolton, aussi ne pouvais-je m'empêcher de redouter les conséquences si l'enquête sur l'affaire de la nuit précédente remontait jusqu'à nous. Cela pourrait se solder par la fin de notre cabinet et peut-être par la prison pour West et moi. Je n'aimais pas du tout les rumeurs qui couraient à propos de ce combat. Après que l'horloge sonna 3 heures, la lumière de la lune me gêna. Au lieu de me lever pour baisser le store, je me retournai dans mon lit. C'est alors que j'entendis un grattement insistant à la porte de derrière. Je restai immobile et un peu interdit, mais West ne tarda pas à venir frapper à ma porte. Il était en robe de chambre et pantoufles et tenait un revolver et une torche électrique. En voyant l'arme, je conclus qu'il pensait davantage à l'Italien fou qu'à la police. « Nous ferions mieux d'y aller ensemble, » murmura-t-il. « Il ne servirait à rien de ne pas répondre, d'autant que c'est peut-être impatient. C'est bien dans le genre de ces idiots d'essayer d'entrer par derrière. » Nous descendîmes donc l'escalier à pas de loup, notre crainte à moitié justifiée, mais venant pour l'autre moitié de l'atmosphère étrange des petites heures de la nuit. Notre visiteur continuait de secouer la porte, mais un peu plus fort qu'avant. Lorsque nous parvînmes à destination, je la déverrouillai en silence, puis l'ouvris à la volée. Et lorsque les rayons de la lune nous révélèrent la silhouette de l'intrus, West commit un acte insolite. Bien que cela risquât, à l'évidence, d'attirer l'attention et les forces de police tant redoutées, ce qui heureusement ne se produisit pas grâce au relatif isolement de notre maison, mon ami déchargea brusquement, intempestivement et sans nécessité, les 6 balles de son revolver sur notre visiteur nocturne. Car ce visiteur n'était ni italien ni de la police. Sur la lune spectrale se détachait hideusement une gigantesque chose difforme qui n'a sa place que dans les cauchemars. Un revenant noir d'encre, aux yeux vitreux, qui se tenait pour ainsi dire à 4 pattes et était couvert de moisissures, de feuilles, de vignes, souillé de sang coagulé et avait entre ses dents luisantes un terrible objet cylindrique, blanc neige, qui se terminait par une toute petite main. C'est le cri d'un homme mort qui attisa en moi une horreur exacerbée pour le docteur Herbert West, horreur dont je ne pus me défaire dans les dernières années de notre relation. Il est naturel que le cri d'un mort, occurrence aussi déplaisante qu'extraordinaire, suscite de la répulsion. Mais j'avais l'habitude de ce genre d'expérience, et c'est donc une circonstance particulière qui fut la cause de mon état d'esprit. De plus, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas du mort lui-même que j'eus peur. Les centres d'intérêt scientifique d'Herbert West, dont j'étais l'associé et l'assistant, dépassaient de loin ce que l'on avait coutume de rencontrer chez un médecin de village. C'est pourquoi, en installant son cabinet à Bolton, il avait choisi une maison isolée à proximité de la fosse commune. Pour dire les choses crûment, West était exclusivement absorbé par l'étude secrète des phénomènes de la vie et de son interruption, ce qui l'amenait à réanimer les morts en leur injectant une solution tonifiante. Pour ces sinistres expériences, il était nécessaire de disposer de cadavres humains particulièrement frais. Frais parce que le plus petit début de décomposition endommageait irrémédiablement les cellules cérébrales. Humains à cause du fait que la composition de la solution changeait pour chaque type d'organisme. Nous avions tué et traité lapins et cochons d'Inde en grand nombre, mais la piste n'avait débouché sur rien. Si West n'avait jamais réussi une réanimation complète, c'était faute de pouvoir se procurer un corps suffisamment frais. Il voulait des sujets qui venaient juste de mourir, des corps dont toutes les cellules étaient intactes et qui restaient donc capables de recevoir à nouveau l'impulsion leur rendant cette activité que l'on appelle la vie. Nous avions l'espoir que cette seconde vie artificielle puisse être rendue perpétuelle en répétant les injections. Cependant, nous avions appris que la vie ordinaire, naturelle, ne réagissait pas à cette stimulation. Pour déclencher le mouvement artificiel, la vie véritable devait avoir cessé. Les spécimens devaient être de première fraîcheur, mais bel et bien morts. Cette quête incroyable avait commencé alors que West et moi étions étudiants de médecine à l'université Miskatonic, à Arkham. Nous venions alors de comprendre pour la première fois que la vie est de nature purement mécanique. C'était 7 ans auparavant, mais West, depuis lors, n'avait pour ainsi dire pas vieilli d'un jour. Ce petit blond à lunettes, rasé de près, avait la voix douce. Et seul un reflet occasionnel dans ses yeux bleus froids trahissait son fanatisme croissant, le durcissement de son caractère sous l'effet de ses terribles recherches. Nos expériences s'étaient souvent avérées horribles au plus haut point, à cause de réanimations imparfaites. La galvanisation des masses inertes extirpées à l'argile des cimetières ne déclenchant, malgré les changements apportés à la formule, qu'un mouvement morbide, contre nature et dénué de dessein intelligent. Un sujet avait émis un cri à fendre l'âme, un autre s'était brusquement levé, nous avait assommé et avait causé des dégâts avant d'être placé derrière les barreaux d'un asile. Un troisième, une répugnante monstruosité à la peau noire, après avoir réussi à s'extraire de sa tombe peu profonde, avait commis l'irréparable. West avait dû l'abattre. Faute de corps assez frais pour faire preuve d'un minimum de raison à leur réveil, nous n'avions pu créer que d'indicibles horreurs. Il était inquiétant de penser qu'un de nos monstres, voire deux, était encore en vie. Cette pensée nous hanta sans relâche jusqu'au jour où West disparut dans d'effroyables circonstances. Toutefois, à l'époque du cri dans le laboratoire installé dans la cave de notre cottage isolé de Bolton, ces craintes étaient secondaires par rapport à notre désir de nous procurer des spécimens d'une fraîcheur extrême. West était plus avide que moi, et il me semblait presque le voir observer avec une sorte de convoitise tout être vivant doté d'une très bonne santé. C'est en juillet 1910 que notre malchance concernant les spécimens commença à tourner. J'avais rendu une longue visite à mes parents, dans l'Illinois, et à mon retour, je trouvais West dans un état d'exaltation singulier. Il avait en toute vraisemblance résolu, m'apprit-il avec excitation, la question de la fraîcheur, en s'attelant au problème suivant un angle entièrement inédit, celui de la conservation artificielle. Sachant qu'il travaillait sur un nouveau procédé d'embaumement hautement inhabituel, je ne fus pas surpris de la tournure favorable des événements. Mais jusqu'à ce qu'il m'explique les détails, je ne voyais pas en quoi ce procédé pourrait nous aider dans notre tâche, puisque l'état inacceptable de nos spécimens résultait principalement du délai qui s'écoulait entre la mort et le moment où nous nous les procurions. Je voyais désormais que West avait clairement identifié le problème. Il avait créé son procédé d'embaumement pour un usage futur plutôt qu'immédiat, et s'en remettait au destin pour trouver un cadavre très récent et non enterré, comme le noir tué dans un combat clandestin à Bolton des années auparavant. Et enfin, le sort s'était montré clément, comme en témoignait le corps allongé dans notre laboratoire secret, corps dont la décomposition ne pouvait pas avoir commencé. Ce qui se produirait lors de la réanimation, et s'il était raisonnable d'espérer un réveil de la conscience et de l'esprit du sujet, West ne se risqua pas à le prédire. L'expérience constituerait une étape importante de nos recherches, et il avait gardé le corps pour mon retour, afin que nous puissions assister ensemble au spectacle, comme à notre habitude. West me raconta comment il s'était procuré le sujet. C'était un homme vigoureux, un étranger bien vêtu, tout juste descendu du train pour aller traiter quelque affaire avec les filatures de Bolton. Il avait longuement marché à travers la ville, et lorsqu'il s'était arrêté chez nous pour demander le chemin des usines, son cœur avait déjà été soumis à rude épreuve. Juste après avoir refusé un remontant, il était tombé raide mort. Comme on pourrait s'y attendre, West accueillit ce cadavre comme un cadeau divin. Lors de leur brève conversation, l'étranger avait précisé que personne ne le connaissait à Bolton, et la fouille de ses poches révéla qu'il s'agissait d'un dénommé Robert Levitt, de Saint-Louis, et qu'il n'avait aucune famille susceptible de lancer des recherches sur sa disparition. Si nous ne parvenions pas à rendre la vie à cet homme, personne n'aurait vent de notre expérience. En effet, nous enterrions nos cobayes dans un bras de forêt dense entre notre maison et la fosse commune. Si, d'un autre côté, nous arrivions à le réanimer, notre renommée serait glorieusement et à jamais établie. Aussi, West s'était empressé d'injecter dans le poignet du défunt la solution qui le garderait frais jusqu'à mon retour. La fragilité supposée du cœur du sujet, de mon point de vue, risquait de compromettre le succès de notre expérience, ne semblait pas gêner West outre mesure. Il espérait enfin obtenir ce qui lui avait toujours échappé, une étincelle de raison et, pourquoi pas, une créature vivante normale. Ainsi, la nuit du 18 juillet 1910, Herbert West et moi contemplions, dans le laboratoire de la cave, une silhouette blême et silencieuse à la lumière éblouissante du projecteur fixé au plafond. Le procédé d'embaumement s'était révélé prodigieusement efficace, car, alors que je fixais un regard fasciné sur le corps robuste, qui était resté allongé là 2 semaines, sans être gagné par la rigidité cadavérique, je ne pus m'empêcher de demander à West si le sujet était bien mort. Il me l'assura sans hésiter, en me rappelant qu'il n'injectait jamais la solution de réanimation sans avoir effectué au préalable un test soigneux de l'état du spécimen, la moindre trace de vie résiduelle empêchant la formule de fonctionner. En regardant West s'atteler aux étapes préliminaires de l'expérience, je fus impressionné par la nouvelle procédure, d'une complexité telle qu'il ne pouvait se fier à une main moins précise que la sienne. M'interdisant de toucher le corps, il commença par injecter une première solution dans le poignet, juste à côté de l'endroit où il l'avait piqué pour l'embaumer. Il m'expliqua que ce produit avait pour but de neutraliser le liquide de conservation et de rendre au corps un état de relaxation normale, afin que la solution de réanimation puisse accomplir librement son œuvre. Un peu plus tard, lorsqu'un changement sembla se produire dans les membres, agité d'un léger tremblement, West pressa violemment une sorte d'oreiller sur le visage agité de spasmes et le maintint en place jusqu'à ce que le cadavre se tienne immobile, prêt pour notre tentative de réanimation. L'exalté blême effectua encore pour la forme quelques tests visant à s'assurer de l'absence totale de vie, puis s'écartant, satisfait, Il injecta enfin dans le bras gauche une quantité soigneusement mesurée de l'élixir vital, qu'il avait préparé dans l'après-midi, avec plus de soin que nous n'en avions jamais mis depuis l'époque de nos premiers tâtonnements universitaires. Je ne saurais décrire l'anxiété follement haletante avec laquelle nous attendions la réaction de ce premier spécimen réellement frais, le seul dont nous pouvions raisonnablement espérer qu'il s'exprime de manière rationnelle, voir qu'il nous raconte ce qu'il avait vu de l'autre côté de l'abîme insondable. West, en bon matérialiste, ne croyait pas à l'âme et attribuait tous les mécanismes de la conscience à des phénomènes physiques. Aussi n'attendait-il aucune révélation sur les secrets hideux des gouffres et cavernes de par-delà les frontières de la mort. Si je n'étais pas totalement opposé à son point de vue en théorie, j'avais de vagues restants de croyances primitives héritées de mes ancêtres. Je ne pouvais donc m'empêcher de jeter des coups d'œil au corps avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Par ailleurs, je ne parvenais pas à oublier cet atroce hurlement inhumain que nous avions entendu la nuit de notre première expérience dans la ferme abandonnée d'Arkham. Il s'était passé très peu de temps lorsque je vis que la tentative ne serait pas un échec complet. Les joues, jusque-là blanches comme de la craie, prirent des couleurs, qui se répandirent sous la barbe blonde de 3 jours curieusement longue. West, qui avait la main sur le pouls du poignet gauche, m'adressa soudain un hochement de tête significatif. Presque simultanément, de la buée apparut sur le miroir incliné au-dessus de la bouche du sujet. Quelques mouvements musculaires spasmodiques agitèrent le corps, puis nous l'entendîmes respirer et vîmes sa poitrine se soulever. Je regardai les paupières closes et eus l'impression de les voir trembler. Soudain, elles s'ouvrirent et dévoilèrent des yeux gris, calmes et vivants, mais toujours dénués d'intelligence et même de curiosité. Pris d'une inspiration incompréhensible, je chuchotais des questions aux oreilles rougissantes, des questions sur d'éventuels souvenirs d'autres mondes. La terreur qui me frappa ensuite me les fit oublier, mais je crois que la dernière, que je répétais, était « Où étiez-vous ?» Je ne sais toujours pas si je reçus une réponse, car aucun son ne sortit de la bouche bien dessinée du sujet. Mais ce dont je suis sûr, c'est que sur le moment, j'étais persuadé d'avoir vu ses lèvres fines remuer en silence pour former des syllabes donnant les mots « seulement maintenant », à supposer qu'ils aient la moindre signification un tant soit peu pertinente. Encore une fois, en cet instant, j'exultais, car j'étais convaincu que nous avions atteint notre grand objectif. Pour la première fois, un cadavre réanimé avait distinctement prononcé des mots dictés par la raison. Dans les secondes qui suivirent, le triomphe ne fit aucun doute. La solution avait vraiment accompli, ne fût-ce que temporairement, sa mission visant à rendre la vie et son esprit rationnel à un mort. Mais ce triomphe s'accompagna du pire sentiment d'horreur que j'eusse éprouvé, non pas à l'égard de la chose qui parlait, mais de l'acte dont j'avais été le témoin et de cet homme à qui j'étais professionnellement lié. Car ce corps particulièrement frais, recouvrant enfin toute sa conscience, se mit à se débattre, les yeux dilatés d'effroi par le souvenir de la dernière minute qu'il avait passée sur terre, et tendit frénétiquement les bras comme s'il se battait pour sa vie. Il s'effondra alors soudain, sombrant pour la seconde et dernière fois dans l'inconscience, non sans avoir poussé ce cri dont l'écho résonnera à jamais dans mon cerveau endolori.
« À l'aide, ne m'approche pas, espèce de démon aux cheveux filasses, ne me touche pas avec ta sale aiguille !»
Thank you.
on a raconté bien des horreurs, jamais publiées, sur ce qui s'était passé sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Certaines m'ont donné des malaises, d'autres une nausée épouvantable, et d'autres encore m'ont fait frissonner de peur et m'ont poussé à me retourner dans le noir. Et pourtant, si horribles que soient ces récits, je pense avoir un sujet bien pire. L'abominable, l'incroyable, la surnaturelle horreur venue des ténèbres. En 1915, j'étais médecin avec le grade de premier lieutenant dans un régiment canadien opérant dans les Flandres. Je comptais parmi les nombreux Américains qui avaient précédé l'entrée du gouvernement dans le gigantesque conflit. Je ne m'étais pas engagé de ma propre initiative. Cela s'était fait naturellement pour suivre l'homme dont j'étais l'indispensable assistant, le docteur Herbert West, célèbre chirurgien de Boston. Le docteur West s'était montré désireux de servir comme chirurgien dans une grande guerre, et lorsque l'occasion s'était présentée, il m'avait emmené presque contre mon gré. J'avais des raisons de souhaiter que la guerre nous sépare, des raisons de trouver de plus en plus insupportable la pratique de la médecine et la compagnie de West. Mais lorsqu'il partit pour Ottawa et obtint, grâce à l'influence d'un confrère, de servir comme médecin sous le grade de major, je cédai devant l'insistance de cet homme bien décidé à ce que je l'accompagne pour continuer de l'assister. Quand je dis que le docteur West était désireux de partir à la guerre, je ne sous-entends pas qu'il était d'un naturel belliqueux, ni même qu'il avait le moindre désir de défendre la civilisation. Ce blondinet aux yeux bleus et à lunettes avait toujours été une machine intellectuelle. Je pense qu'il méprisait en secret mes élans martiaux occasionnels et mes condamnations d'une neutralité confinant à l'inertie. Cependant, il était venu chercher quelque chose dans les Flandres embrasées, et pour l'obtenir, il devait se présenter sous des dehors militaires. Ce qu'il cherchait, nul autre que lui ne le désirait. Il s'agissait d'une chose liée à cette branche spécifique de la médecine qu'il avait choisi de suivre de façon clandestine et dans laquelle il avait eu des résultats étonnants et parfois atroces. Ce qu'il cherchait, en fait, c'était tout simplement une source abondante de morts récents à tous les stades d'amputation. Si Herbert West avait besoin de cadavres frais, c'était parce qu'il consacrait sa vie à la recherche sur la réanimation des morts. La clientèle huppée qui avait si promptement bâti sa réputation après son installation à Boston ne savait rien de ses travaux. Moi, par contre, qui étais son ami le plus proche et son unique assistant depuis nos études en médecine à l'université Miskatonic, je ne les connaissais que trop bien. C'est pendant ces années universitaires que West avait commencé ses terribles expériences, tout d'abord sur de petits animaux, puis sur des corps humains qu'il se procurait par des biais révoltants. Il injectait une solution de son invention dans les veines des cadavres, et s'ils étaient assez frais, ils réagissaient de façon insolite. Il avait eu beaucoup de mal à trouver la bonne formule, chaque type d'organisme ayant besoin, pour revivre, d'un stimulus adapté. La terreur s'emparait de lui lorsqu'il pensait aux résultats de ses échecs partiels, des horreurs nées de solutions mal dosées ou de corps insuffisamment frais. Un certain nombre de ces créatures étaient encore en vie. L'une d'elles était enfermée à l'asile, tandis que d'autres s'étaient évaporées dans la nature. Et quand il pensait à certaines éventualités concevables, encore que presque impossibles, il frissonnait souvent malgré son habituelle impassibilité. West avait vite découvert qu'une fraîcheur totale était absolument indispensable pour qu'un spécimen soit utile, et avait donc eu recours à d'effroyables expédients contre nature pour se procurer des cadavres. À l'université, puis pendant les premières années d'exercice de notre profession dans la ville industrielle de Bolton, j'éprouvais surtout pour lui de l'admiration, voire de la fascination. Mais à mesure que ses méthodes s'étaient faites plus audacieuses, je m'étais mis à ressentir une peur tenaillante. Je n'aimais pas la manière qu'il avait de lorgner les individus en bonne santé. Et surtout, lors d'une séance cauchemardesque dans le laboratoire installé à la cave, j'avais appris qu'il s'était procuré un spécimen vivant. Pour la première fois, West avait réussi à réveiller la pensée rationnelle chez un cadavre, et ce succès, remporté au prix d'un acte répugnant, l'avait rendu totalement insensible. Je n'ose parler des méthodes qu'il employa au cours des 5 années qui suivirent. Seule la peur me poussa à rester auprès de lui, et j'assistai à des scènes qu'il est humainement impossible de décrire. J'en vins progressivement à trouver Herbert West encore plus horrible que ses actes. Je compris que le zèle scientifique, jadis bien fondé, qu'il avait mis à prolonger la vie, avait peu à peu dégénéré en curiosité morbide et sinistre, en attrait secret pour le pittoresque de la mort. Son intérêt s'était changé en dépendance perverse et infernale à l'égard de l'anormal le plus repoussant, le plus malsain. Il exultait en silence devant des monstruosités artificielles qui auraient fait mourir de peur et de dégoût la plupart des hommes sains d'esprit. Derrière une façade d'intellectuel impassible, il était devenu le Baudelaire minutieux de l'expérimentation physique, l'héliogabale languide de la tombe. Il faisait face aux dangers sans broncher, commettait des crimes sans s'en émouvoir. Je pense qu'il atteignit son apogée quand il fut prouvé que l'on pouvait relancer la vie rationnelle. Il chercha alors de nouveaux mondes à conquérir en menant des expériences sur la réanimation de parties détachées du corps. Il avait des conceptions originales, voire délirantes, sur les propriétés vitales indépendantes des cellules organiques et des tissus nerveux séparés de leur système physiologique naturel, et avait obtenu d'atroces résultats préliminaires sous forme de tissus artificiellement nourris, obtenus à partir des œufs, couvés presque à terme, de quelque indescriptible reptile tropical. Il était extrêmement impatient de tirer au clair 2 questions d'ordre biologique. D'abord, un quelconque degré de conscience et d'action rationnelle était-il possible en l'absence de cerveau, en partant de la moelle épinière et des différents centres nerveux? Ensuite, existait-il quelque lien éthéré, intangible, distinct des cellules matérielles, reliant les parties chirurgicalement séparées, de ce qui avait auparavant formé un seul et même organisme vivant? Toutes ces recherches exigeaient des réserves prodigieuses de chair humaine fraîchement abattue, et c'est pourquoi Herbert West s'était engagé dans la Grande Guerre. L'indicible événement cauchemardesque se produisit à minuit, fin mars 1915, dans un hôpital de campagne à Saint-Éloi, derrière les lignes. Encore maintenant, je me demande s'il ne s'agissait pas tout simplement d'un rêve délirant. West disposait d'un laboratoire privé dans une salle à l'est de l'édifice provisoire qui ressemblait à une grange. Pour l'obtenir, il avait prétendu chercher de nouvelles méthodes radicales pour le traitement de mutilations échappant jusque-là au pouvoir de la médecine. Il y travaillait tel un boucher au milieu de son équipement sanguinolent. Jamais je ne m'habituais à la légèreté avec laquelle il traitait et entreposait ses sujets. Il lui arrivait parfois d'accomplir des prodiges de chirurgie pour les soldats, mais ses plaisirs premiers étaient d'une espèce beaucoup moins publique et philanthropique, et il lui fallait souvent expliquer des bruits qui paraissaient insolites, y compris dans cette Babel des damnés, notamment les coups de revolver fréquents qui, s'ils n'avaient rien d'étonnant sur un champ de bataille, l'étaient beaucoup plus dans l'enceinte d'un hôpital. Les spécimens réanimés du docteur West n'étaient destinés ni à une longue existence, ni à un large public. En plus de tissus humains, West se servait abondamment de ceux qu'il prélevait dans les embryons de reptiles dont la culture avait donné de si singuliers résultats. Ces tissus-ci étaient plus efficaces que les chairs humaines pour maintenir en vie des fragments sans organes. Et c'est donc à cette culture que mon ami consacrait désormais le plus clair de son temps. L'incubation se faisait dans un recoin sombre du laboratoire, dans une grosse cuve posée sur un étrange brûleur. La cuve débordait de matière reptilienne qui gonflait hideusement sous l'effet de la multiplication cellulaire. Cette nuit-là, nous eûmes un splendide spécimen, un homme d'une grande force physique et d'une intelligence telle qu'il ne pouvait que posséder un système nerveux sensible. Ironie du sort, Il s'agissait de l'officier qui avait aidé West à s'engager et qui aurait dû être notre partenaire. D'ailleurs, il avait jadis passé quelque temps à étudier en secret la théorie de la réanimation sous l'égide de West. Le major Eric Morland Clafamley, titulaire d'une Distinguished Service Order, était le plus grand chirurgien de notre division. Quand le quartier général avait eu vent de terribles combats, on l'avait hâtivement affecté au secteur de Saint-Éloi. Son avion, piloté par l'intrépide lieutenant Ronald Hill, avait été abattu juste au-dessus de sa destination. La chute avait été spectaculaire et terrible. Hill était méconnaissable, mais lorsque l'on sortit le grand chirurgien de l'épave, son corps était intact à l'exception de sa tête presque entièrement détachée. West s'était emparé avec avidité de la chose sans vie qui avait jadis été son ami et son camarade d'études. Je frémis en le regardant finir de couper la tête pour la déposer dans sa cuve infernale, remplie d'épais tissus reptiliens, afin de la conserver pour des expériences ultérieures, puis lorsqu'il entreprit de traiter le corps décapité sur sa table d'opération. Il lui injecta du sang frais, ligatura des veines, des artères et des nerfs au niveau du cou tranché, puis referma l'effroyable ouverture avec une greffe de peau provenant d'un spécimen non identifié qui avait porté un uniforme d'officier. Je savais ce qu'il cherchait. Il voulait savoir si ce corps hautement organisé pourrait, en l'absence de tête, montrer le moindre signe de cette activité mentale qui avait distingué Sir Eric Morland Clafamley. Le tronc inerte de cet ancien étudiant en réanimation était, par une abominable ironie, appelé à nous servir de cobaye. Je revois encore Herbert West injecter sa solution dans le bras du corps sans tête, sous le sinistre éclairage électrique. Je ne puis décrire la scène sans risquer de défaillir, car la folie règne dans une pièce pleine de fragments de corps entreposés, où les débris humains sans importance jonchant le sol poisseux de sang nous arrivaient presque à la cheville, et où des monstruosités reptiliennes bourgeonnantes, parcourues de bulles, mijotaient sur la petite flamme tremblotante bleu-vert du brûleur, dans un coin rempli d'ombre noire. Le spécimen, remarqua West de manière répétée, était doté d'un système nerveux splendide. Il en attendait beaucoup et, lorsque les premiers soubresauts apparurent, je lus l'intérêt fiévreux de West sur son visage. Il était prêt, je pense, à voir se vérifier sa conviction de plus en plus nette que la conscience, la raison, la personnalité pouvaient exister indépendamment du cerveau, que l'homme ne possédait pas d'esprit centralisé, mais n'était qu'une machine composée de matières nerveuses, chaque section formant un ensemble plus ou moins complet. Cette démonstration triomphale allait permettre à West de reléguer le mystère de la vie au rang de mythe. Le corps s'agita avec plus de vigueur, et sous nos yeux avides, commença à se soulever de façon effrayante. Les bras furent pris de mouvements tremblants, le spécimen plia les jambes et différents muscles se contractèrent de façon répugnante. Sur ce, la chose sans tête lança les bras en avant dans un geste indéniablement désespéré. Réaction intelligente qui suffit apparemment à prouver toutes les théories d'Herbert West. À n'en point douter, les nerfs se rappelaient le dernier acte de vie de cet homme, lorsqu'il avait lutté pour se libérer de l'avion sur le point de s'écraser. Je ne saurai jamais vraiment ce qui arriva ensuite. Peut-être fûmes-nous victimes d'une hallucination suite au choc provoqué, à cet instant, par la soudaine et complète destruction du bâtiment dans un incendie suite à la chute d'un obus allemand. Qui pourrait le nier, puisque West et moi fûmes les seuls survivants avérés? Cette explication avait la faveur de West avant sa récente disparition, mais il n'arrivait pas toujours à se convaincre de sa véracité. Car il paraît étrange que nous ayons eu la même hallucination. L'événement, bien qu'abominable, fut fort simple et uniquement remarquable à cause de ce qu'il impliquait. Le corps sur la table s'était redressé en tâtonnant à l'aveuglette, et nous entendîmes un son. J'ose à peine parler de voix, car c'était trop horrible. Et cependant, son timbre n'était pas ce qu'il y avait de plus atroce, pas davantage que son message. Elle avait tout simplement hurlé « Sautez, Ronald, pour l'amour de Dieu, sautez !» Non. Le plus atroce était bien l'origine du cri. Il venait de la grande cuve couverte, entreposée dans cet effrayant recoin grouillant d'ombre noire. Lorsque le docteur Herbert West a disparu il y a un an, la police de Boston m'a longuement interrogé. On me soupçonnait de cacher quelque chose, voire d'avoir commis l'irréparable. Mais je ne pouvais leur révéler la vérité, car ils ne m'auraient pas cru. Bien entendu, les inspecteurs savaient que West s'était livré à des activités dépassant l'imagination des gens normaux. Ces atroces expérimentations sur la réanimation de cadavres avaient pris trop d'ampleur pour pouvoir rester totalement secrètes. Mais la catastrophe finale, dévastatrice, comporte des éléments fantasmatiques et démoniaques qui me font douter de la réalité de ce que j'ai vu. J'étais l'ami le plus proche de West et son unique assistant. Nous nous étions rencontrés des années plus tôt, à la faculté de médecine, et j'avais été dès le début dans le secret de ses terribles recherches. Au fil du temps, il s'était efforcé de perfectionner une solution qui, une fois injectée dans les veines d'un mort récent, devait ramener ce dernier à la vie. Une tâche qui nécessitait des cadavres frais en abondance et, par conséquent, nous poussait à des expédients contre nature. Mais les produits de certaines de ces expériences, d'effroyables masses de chair morte qui, une fois réveillées, restaient atrocement aveugles et décérébrées, étaient encore plus effarants. De tels résultats constituaient la norme, car pour réanimer l'esprit, il fallait travailler sur des spécimens d'une fraîcheur absolue, dont les fragiles cellules cérébrales n'avaient pas encore commencé à se décomposer. Ce besoin de cadavres particulièrement frais avait causé la perte morale de West. Ils étaient si difficiles à trouver qu'un terrible jour il en était venu à se procurer un sujet encore vivant et en bonne santé. Une lutte, une seringue et un alcaloïde puissant l'avaient transformé en un cadavre tout frais, et l'expérience avait réussi pendant un moment bref mais mémorable. Cependant, West en était ressorti avec l'âme endurcie et insensible, et avec des yeux froids qui, parfois, lorgnaient d'un air atrocement calculateur les gens au cerveau particulièrement sensible et au physique particulièrement vigoureux. Vers la fin, je ressentis moi-même une forte peur, car West commençait à me regarder de la même manière. Les gens ne paraissaient pas remarquer ces coups d'œil, mais il sentait mon effroi, et après sa disparition, mon état d'esprit servit à étayer les soupçons les plus absurdes. West, en réalité, avait plus peur que moi, dans la mesure où ses abominables recherches le contraignaient à vivre dans la clandestinité et l'amenaient à redouter le plus petit début d'ombre. Ses craintes étaient liées en partie à la police, mais parfois sa nervosité était plus profonde et nébuleuse, et concernait certaines choses indescriptibles dans lesquelles il avait injecté une vie morbide et qu'il n'avait pas vu mourir par la suite. Ces expériences se terminaient généralement à coups de revolver, mais à quelques reprises, il ne s'était pas montré assez rapide. Il avait eu le cas du premier spécimen, dans la tombe duquel on avait découvert plus tard des traces de griffures, et aussi le corps d'un professeur d'Arkham, qui s'était livré à des actes de cannibalisme avant d'être capturé et jeté, sans qu'on l'eût identifié, dans une cellule de l'asile de Sefton, où il passa 16 ans à se frapper la tête contre les murs. Il est beaucoup plus difficile de parler de la plupart des autres cas ayant survécu, car dans les dernières années, le zèle scientifique de West avait dégénéré en manie improbable et malsaine, si bien qu'il avait consacré ses talents à rendre la vie non pas à des corps humains entiers, mais à des parties détachées ou reliées à des tissus organiques non humains. Au moment de sa disparition, les choses avaient pris un tour franchement écœurant, au point qu'il me serait impossible de coucher, même de manière allusive, ses expériences par écrit. La Grande Guerre, au cours de laquelle nous servîmes tous deux comme chirurgiens, ne fit qu'intensifier ce travers de West. Ce qui me fait qualifier la peur de West de nébuleuse, c'est principalement sa nature complexe. Elle venait en partie du fait qu'il avait connaissance de l'existence de ces monstres innommables, mais aussi de ce qu'il risquait de lui faire du mal dans certaines circonstances. Leur disparition ajoutait à l'horreur de la situation. West connaissait le sort d'une seule de ses créations, la misérable créature enfermée à l'asile. Et puis il y avait une autre peur, plus subtile. Une sensation tout à fait insolite résultant d'une curieuse expérience, alors que nous étions dans l'armée canadienne en 1915. West, au cours d'une violente bataille, avait réanimé le major Eric Morland Clapham Lee, titulaire d'une Distinguished Service Order, un confrère qui connaissait ses expériences et aurait pu les reproduire. La tête étant détachée du corps, nous eûmes l'occasion d'enquêter sur la quasi-intelligence du tronc. À l'instant où un obus allemand rasait le bâtiment, nous touchâmes au succès. Le tronc avait bougé de façon intelligente. Et, si incroyable que cela puisse paraître, nous étions tous deux sûrs d'avoir entendu, idée répugnante, la tête coupée, posée dans un recoin sombre du laboratoire, émettre des sons articulés. D'une certaine manière, l'obus s'était montré clément en nous épargnant, mais West aurait voulu être certain que nous fussions les deux seuls survivants. Il lui arrivait de faire des conjectures effrayantes sur les actes possibles d'un médecin sans tête qui aurait le pouvoir de réanimer les morts. La dernière résidence de West se trouvait dans une vénérable et très élégante maison surplombant l'un des plus vieux cimetières de Boston. Il avait choisi cet endroit pour des raisons purement symboliques et avec un sens déroutant de l'esthétique. En effet, la plupart des tombes dataient de l'époque coloniale et ne présentaient donc que peu d'intérêt pour un scientifique recherchant des cadavres de première fraîcheur. Le laboratoire se trouvait dans un niveau creusé sous la cave par des ouvriers étrangers et était équipé d'un gigantesque incinérateur pour disposer de façon aussi discrète que totale des corps, complets ou incomplets, et des parodies synthétiques de corps résultant des sinistres expériences et des distractions sacrilèges du propriétaire. En creusant la cave, les ouvriers avaient découvert un mur extrêmement ancien, sans aucun doute relié à la vieille nécropole, mais trop profond pour communiquer avec aucune des sépultures connues. D'après ses calculs, West affirma qu'il devait s'agir de quelques chambres secrètes situées sous le caveau des Averill, où le dernier enterrement remontait à 1768. J'étais avec lui lorsqu'il étudia la paroi nitreuse et suintante mise à nu par les pelles et pioches des ouvriers, et m'était préparé au macabre frisson qui accompagnerait la découverte de secrets sépulcraux plusieurs fois centenaires. Mais, pour la première fois, une pusillanimité inédite eut raison de la curiosité naturelle de West, et il renia ses tendances de plus en plus perverses en ordonnant aux ouvriers de ne pas s'attaquer à ce mur, et même de le recouvrir de plâtre. Il demeura ainsi jusqu'à la nuit fatidique, une paroi parmi celles du laboratoire secret. Je parle de la décadence de West, mais je dois préciser qu'elle était purement mentale et intangible. Extérieurement, il resta le même jusqu'à la fin. Calme, froid, blond fluet aux yeux bleus et à lunettes qui avaient gardé l'air jeune malgré les années et la peur. Il paraissait toujours détendu, même lorsqu'il se retournait en pensant à la tombe ouverte à coups de griffes, et même quand il avait à l'esprit la créature carnivore qui rongeait et martelait les barreaux de sa cellule à Sefton. Pour Herbert West, le début de la fin arriva un soir, dans notre bureau, alors qu'il partageait son attention entre les pages chiffonnées de son journal et moi. Un titre l'avait frappé. C'était comme si une titanesque patte garnie de griffes abominables venait de jaillir d'un passé remontant à 16 ans. Quelque chose d'effroyable, d'incroyable, s'était produit à l'asile de Sefton, à 80 kilomètres de là. Le voisinage était sous le choc, la police déconcertée. Au petit matin, un groupe d'hommes avait pénétré en silence dans le parc de l'hôpital. Le chef avait réveillé le personnel. C'était un homme de type militaire, qui parlait sans remuer les lèvres, à la façon d'un ventriloque, et dont la voix semblait provenir de la grande valise noire qu'il portait. Son visage dénué d'expression était d'une beauté éclatante, mais lorsque la lumière du hall l'avait éclairé, le directeur en était resté interdit, car l'homme avait un visage de cire et des yeux de verre peint, sans doute le résultat d'un effroyable accident. Un homme plus grand guidait ses pas, une masse repoussante dont la figure bleuâtre semblait à moitié rongée par quelque maladie inconnue. Celui qui parlait avait exigé la garde du monstre cannibale envoyé d'Arkham 16 ans plus tôt. Lorsqu'il essuya un refus, il donna un signal qui déclencha une épouvantable scène de violence. Les démons avaient battu, piétiné et mordu tous les surveillants qui ne s'étaient pas enfuis. Après en avoir tué 4, ils parvinrent à libérer le monstre. Les victimes capables de raconter les faits sans sombrer dans l'hystérie jurèrent que les créatures s'étaient moins comportées comme des hommes que comme des automates étranges, obéissant aux ordres du chef au visage de cire. Le temps que les secours arrivent, les agresseurs et le fou qu'ils avaient libéré avaient disparu sans laisser de traces. Après avoir lu cet article, West resta, pour ainsi dire, paralysé. À minuit, on sonna à la porte, ce qui le fit sursauter d'effroi. Comme tous les domestiques dormaient au grenier, j'allais ouvrir. Je l'ai dit plus tard à la police. Il n'y avait pas de véhicule dans la rue, rien qu'un groupe d'individus bizarres portant une grande boîte carrée qu'ils déposèrent dans l'entrée après que l'un d'eux avait grogné d'une voix particulièrement étrange.
« Express, port payé. »
Ils ressortirent en file indienne d'un pas saccadé. En les regardant s'éloigner, j'eus la drôle d'impression qu'ils se dirigeaient vers le vieux cimetière auquel était accolé l'arrière de la maison. Dès que je claquai la porte, West descendit voir la boîte. Elle mesurait à peu près 60 centimètres de côté et portait bien le nom de West et son adresse actuelle. Dessus, il était aussi inscrit « De la part d'Eric Morland Clafamly, Saint-Éloi, Flandre ». 6 ans plus tôt, dans les Flandres, un hôpital frappé par un obus s'était effondré sur le corps décapité mais réanimé du docteur Clafamly, et sur sa tête qui avait, nous avait-il semblé, émis des sons articulés. Malgré la tournure des événements, West garda son calme, ce qui le rendit d'autant plus sinistre. « C'est la fin, » dit-il précipitamment. « Mais incinérons ceci. » Nous descendîmes la chose au laboratoire, les sens en éveil. Je ne me rappelle plus beaucoup de détails, vous imaginez bien dans quel état d'esprit je me trouvais, mais il est odieux de m'accuser d'avoir poussé West dans l'incinérateur. Nous y introduisîmes ensemble la boîte encore fermée, refermâmes la porte et mîmes l'appareil en marche. Et, en fin de compte, aucun bruit ne sortit du colis. C'est West qui, le premier, vit le plâtre tomber du mur recouvert de la vieille tombe. J'allais prendre mes jambes à mon cou, mais il me retint. Je remarquai alors une petite ouverture noire, sentis un sinistre vent glacial et humais la puanteur de charniers des entrailles putréfiées de la terre. Sans qu'il y eût le moindre bruit, les lumières électriques s'éteignirent, et je vis se découper sur la phosphorescence du monde d'en bas une horde de créatures qui s'affairaient en silence, des êtres que seul un esprit fou, voire pis, aurait pu créer. Leur silhouette était humaine, semi-humaine, partiellement humaine ou totalement inhumaine. La horde était grotesquement hétérogène. Les créatures retiraient sans bruit, une à une, les pierres du mur séculaire. Puis, lorsque le trou fut assez grand, elles entrèrent dans le laboratoire en file indienne, précédées à grandes enjambées par un être à la belle tête de cire. Le chef était suivi d'une monstruosité aux yeux fous qui s'empara d'Herbert West. Ce dernier ne résista pas, ni n'émit le moindre son. Alors, toutes les créatures se jetèrent sur lui et le taillèrent en pièces sous mes yeux, puis emportèrent les morceaux dans cette crypte souterraine, royaume des abominations fabuleuses. C'est le chef à visage de cire et à uniforme d'officier canadien qui partit avec la tête de West. Lorsqu'il disparut, derrière ses lunettes, je vis pour la première fois une intense émotion briller dans ses yeux bleus. Les domestiques me trouvèrent sans connaissance le lendemain matin. Il n'y avait plus trace de West. L'incinérateur ne contenait plus que des cendres inidentifiables. Les enquêteurs m'interrogèrent, mais que puis-je dire ? Il refuse de relier la tragédie de Sefton à l'affaire West. Il en va de même des hommes qui livrèrent la boîte et dont il récuse l'existence. Quand je leur ai parlé de la crypte, ils m'ont montré le plâtre intact en s'esclaffant. Alors j'ai cessé de leur parler. Ils pensent que je suis soit fou, soit un meurtrier. Et sans doute suis-je fou. Mais je n'aurais pas sombré dans la démence si ces maudites légions d'outre-tombe n'avaient pas été aussi silencieuses.